Rodolphe Yal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur d'ABC Bourse. Pouvez-vous vous présenter pour commencer?
Oui, alors effectivement, j'ai créé ce site de bourse en ligne bien connu il y a maintenant un peu plus de 15 ans, juste avant les années 2000 et la bulle technologique. Donc, je suis dans cet univers de la bourse depuis bien longtemps. Et voilà, donc mon rôle et mon métier aujourd'hui, c'est de développer ce site en tant que chef d'entreprise, hein, de développer son audience, les outils qu'on met à disposition des gens tous les jours, voilà, et de satisfaire ce public de passionnés, d'investisseurs.
Alors justement, quel est votre style de trading habituel?
Alors, personnellement, j'ai un trading plutôt moyen long terme, c'est-à-dire que je suis pas axé sur des mouvements de day trading de court terme, donc une position plutôt investisseur moyen terme sur des grandes valeurs assez liquides, quelques mid-caps, valeurs moyennes aussi, mais globalement c'est plutôt portefeuille assez équilibré de moyen terme avec des valeurs de rendement, avec j'essaie de trouver des situations un peu de décote sur certains titres. Voilà, c'est une gestion assez traditionnelle dans l'approche.
Alors justement, est-ce que vous avez changé votre plan de trading habituel pour la Bing Traders Cup?
Alors dans la Bing Traders Cup, j'étais parti sur cette image, parce que c'est vrai que ABC Bourse a aussi, de par son nom et puis de par ses activités, une vocation pédagogique importante. L'idée, c'était de montrer aux gens ce qu'on pouvait faire en bourse de manière simple, l'approche la plus basique et je dirais le retour aux sources de la bourse, c'était ça, c'était bâtir un portefeuille équilibré, réparti sur des secteurs, sur des valeurs. Pour limiter le risque. Donc, j'étais parti là-dessus, mais malheureusement dans un contexte un petit peu délicat, puisque l'actualité a vu beaucoup de grands événements se télescoper en très peu de temps. Il y a eu la réunion de la Réserve fédérale américaine, la réunion de la BCE, des grandes décisions, les chiffres de l'emploi américain, donc une volatilité énorme qui a rendu ce type de stratégie délicate, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de visibilité. Et également, ce qu'on peut dire, c'est que le concours est court et a plutôt tendance à avantager ceux qui vont aller chercher des opportunités de très court terme avec du levier, plutôt que ceux qui vont bâtir un portefeuille équilibré à moyen terme. Voilà, c'est pas la stratégie pour gagner, on va dire, idéale.
Oui, alors après, on pourrait dire que ce qui compte finalement, c'est bien le long terme sur des actions. Donc, quand vous parlez de portefeuille équilibré, y a des choses à éviter justement quand on veut construire ce type de portefeuille.
Ben, ce qu'il faut éviter, c'est justement de ne pas surpondérer une valeur, hein, c'est-à-dire qu'elle soit trop représentée au sein du portefeuille. Moi, j'ai une petite anecdote cette année, hein, je suis rentré sur une valeur qui s'appelle CGG, c'est une société parapétrolière qui était déjà très très basse. Le pétrole était déjà sous les 40 dollars et je me suis dit, bon, je vais jouer un rebond pour la fin du jeu parce qu'il fallait quand même aller prendre un peu de risque. Même si elle représentait que 25% du portefeuille, ben, un beau matin, elle a perdu quasiment 20% puisqu'il y a eu une annonce surprise d'augmentation de capital. Donc voilà ce qui pend au nez de l'investisseur, c'est l'annonce surprise. Alors ça peut être un profit warning, une société qui annonce qu'elle fera moins bien que prévu sur ses comptes. Ça peut être, voilà, une augmentation de capital surprise, ce genre de choses. Et puis ça fait un moins 20% le matin quand on se réveille. Ce qui montre bien l'intérêt de diversifier et de ne pas être trop pondéré sur une seule valeur. Donc c'était ça, diversification, d'une part en termes de valeur, et deuxièmement en termes de secteur. Donc c'était l'idée, j'étais rentré sur les médias aussi, sur la distribution, donc sur plusieurs secteurs qui permettaient un petit peu de compenser les mouvements sectoriels.
Alors là, justement, vous parlez de savoir couper une position, mais on pourrait dire dans l'autre sens, si on a choisi une bonne valeur, voilà, on fait 10, 15, 20, 30, 40%, on peut espérer. À quel moment on doit couper? Est-ce que c'est plus difficile finalement de couper à la baisse qu'à la hausse?
C'est beaucoup plus difficile de couper quand on perd de l'argent. Psychologiquement, l'homme n'est pas fait pour ça. Donc globalement, quand on perd de l'argent, on reste collé avec sa valeur. On est toujours ce que j'appelle moi le mode espoir. C'est-à-dire que les gens se mettent dans cette disposition d'esprit en disant ça va rebondir, ça va rebondir, ça va rebondir. Bon, ça peut aboutir à des catastrophes. Et à l'inverse, il est très difficile de tenir des gains parce qu'il y a ce petit appât du gain qui fait ça y est, c'est gagné, je vais les prendre, je vais les matérialiser tout de suite. Et donc c'est celui qui regarde son portefeuille tous les jours, vraiment la tentation est très forte de couper ses gains dès qu'ils deviennent un peu significatifs. Donc, d'où l'intérêt d'être plutôt dans une approche long terme si on veut faire des gros gains sur les valeurs et de pas être forcément collé tous les jours sur ces valeurs, seconde par seconde, parce que ça, il est évident que ça met une pression psychologique très forte, pour prendre ses gains trop vite en fait et rater les grandes tendances.
Et ça veut dire que même si vous regardez ce qui se passe au quotidien, mais que vous vous êtes fixé des objectifs sur des valeurs, les valeurs dont on a parlé par exemple, vous êtes fixé des objectifs à la hausse, à la baisse pour
Oui,
bouger.
alors exactement, ça c'est systématique. Dès que je rentre sur un titre, bon, c'est le fruit d'abord d'une analyse de la situation, de sa situation financière fondamentale, voire technique aussi, pour le timing d'intervention. C'est systématique, je fixe toujours, voilà, si je rentre sur ce titre, c'est pour aller chercher tel objectif, parce que y a telle et telle explication, telle raison, elle n'est pas valorisée au prix où elle devrait l'être, etc. Donc, il y a toujours un plan de trading derrière quand même qui est sous-jacent.
Vous diriez aujourd'hui que vous avez, bon, malgré ce qui s'est passé, justement, un peu plus de volatilité, comme vous l'avez évoqué, qu'il y a des opportunités, c'est-à-dire si on investit aujourd'hui sur les actions, il y a des opportunités, malgré les hausses qui ont pu avoir lieu, quoi, ces dernières années, il y a toujours des opportunités.
Oui, oui, bien sûr, il y en a tout le temps des opportunités, il y en a quasiment tous les jours. L'économie en plus est cyclique, il en est de même pour les secteurs. Les secteurs sont jamais tous corrélés en même temps aux mêmes événements. Donc il y a toujours des choses à faire. Si c'est pas sur la distribution, c'est sur la santé. Si c'est pas sur la santé, c'est sur l'automobile, les matières premières. Voilà, il y a des choses comme ça, par exemple. On a vu cette année, ça a été l'année horrible pour les matières premières. Alors, en cause de la chute du pétrole et des prix des matières premières, mais 2016 sera peut-être le retour en grâce des matières premières. Voilà, est-ce que le pétrole est voué à rester toujours comme ça durablement sur des niveaux très très bas? Moi, personnellement, je ne le crois pas. Donc, pour 2016, ce serait mon pari quand même, les valeurs de l'énergie, les valeurs, enfin j'entends dans la production, hein, pas dans la distribution, les valeurs des matières premières, on le voit là. Des valeurs comme Arcelor, par exemple, sur l'acier, qui ont été vraiment massacrées. Bon, il y a moyen de bâtir un portefeuille, je pense, intéressant sur le moyen terme. Ça reste un besoin de fond, les matières premières, et quand l'économie mondiale repartira un peu plus solidement qu'aujourd'hui, et que la demande sera là, bon, les prix s'orienteront de nouveau à la hausse. Donc, voilà, c'est des choses à jouer, et ce sera peut-être finalement, les matières premières seront peut-être en évolution à l'inverse du marché l'an prochain, qui sera pas aussi performant que cette année. Donc, voilà, on peut toujours être entre deux cycles et une analyse sectorielle toujours intéressante.
Le mot de la fin, vous êtes complètement investi ou vous avez toujours une poche de cash pour justement pouvoir réagir?
Alors là, si on parle du concours Bink, ben, je suis en train de désinvestir, hein, parce que le jeu arrive à sa fin là, à la fin de la semaine. Donc, voilà, c'est pour finir liquide. Et à titre personnel, je suis toujours investi, oui, effectivement, et j'ai commencé à rentrer sur des matières premières.
Bah, merci d'avoir fait le point avec nous pour cette Bing Traders Cup, Rodolphe, et à bientôt.
Merci.